enlever ça de devant mon nez. Alors, vous le savez, ça ne vous aura sans doute pas échappé cette semaine. Ça s'est passé jeudi dernier. L'homme pénètre dans un parc et poignarde des enfants. Ça s'est passé là, à 45 minutes de chez nous, sur les bords du lac d'Annecy. Le plus jeune, Peter, a 22 mois. Ennio a tout juste 2 ans, sa cousine Alba a 2 ans et demi, et Etty a 3 ans. Et en les agressant, l'assaillant a crié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut imaginer crime plus abject que celui-ci ? Physiquement, moralement, spirituellement, on est dans quelque chose d'absolument effroyable. Et on a beau savoir à quel point le péché est abominable, à quel point le cœur de l'homme peut être ravagé et corrompu, eh bien, il y a encore des situations qui nous laissent stupéfaits. Si Dieu existe, comment est-ce qu'il peut laisser faire ça ? Si Dieu existe, comment est-ce qu'il peut laisser quelqu'un agresser au couteau des enfants en son nom ? Et si on élargit le spectre de nos réflexions, on peut aussi se demander, si Dieu existe, pourquoi Auschwitz ? Pourquoi Hitler ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi la misère ? Pourquoi la faim ? Pourquoi les catastrophes ? La question de l'existence du mal, c'est la pierre d'achoppement pour le monde qui nous entoure. Et parfois même pour nous-mêmes, pour notre propre foi. Alors, cette question, on va essayer de la regarder en face ce matin. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, non pas au chapitre 3, mais au chapitre 2. Mais avant, je vais prier. Seigneur, à nouveau, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est vraiment une lumière sur notre sentier. Ta parole qui apporte la vie, Seigneur. Cette parole qui est vivante et dont nous voulons nous approcher, non pas comme on s'approche d'un livre d'histoire ou d'un livre qui nous donne des informations, mais vraiment comme d'une parole qui a ce pouvoir de transformer nos vies, de transformer nos cœurs, de nous façonner petit à petit à l'image de ton Fils. C'est notre demande ce matin. Que ta parole nous façonne. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va aller en Genèse 2 et je vais lire les versets 8 à 17. On est dans le récit de la création. L'être humain a été créé et il nous est dit ici « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve aussi le Bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, c'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La transgression de la limite. On a là un être humain qui jouit d'une liberté totale, totale, Ils pouvaient manger du fruit de tous les arbres du jardin, tous sauf un. Il y a une seule restriction, et cette restriction, c'est la garante de sa liberté. Parce que là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de liberté, parce qu'il n'y a pas de choix. Être libre, ça n'est pas de pouvoir tout faire, être libre, c'est de pouvoir choisir. Pourtant, sous l'influence de Satan, l'être humain va vouloir s'affranchir de cette limite. Et le paradoxe, c'est que c'est exactement comme ça qu'il va tomber finalement en esclavage. On peut distinguer trois sortes de mal. Le mal physique, qui est en rapport avec le corps, le mal moral, qui est en rapport avec l'âme, et le mal métaphysique, qui est en rapport avec l'esprit. Les deux premiers trouvent leur origine dans l'événement de la chute. La Bible nous raconte comment, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont détournés de Dieu pour écouter la voix du diable. Et ce faisant, ils ont rompu la communion qui les liait au Dieu de la vie. Le péché et la mort sont entrés dans le monde, et avec eux, leur cortège de misère. Mais ça ne résout pas la question du mal métaphysique. Ça ne résout pas la question de savoir comment une créature de Dieu, dont Dieu lui-même a déclaré qu'elle était très bonne, comme l'ensemble de sa création du reste, a pu voir sa nature parfaite se corrompre. Et au fond, c'est ça la question qui nous agite. C'est de là que naît ce cri du cœur. Si Dieu existe, comment se fait-il que ? Alors pour débroussailler cette question, il est utile d'observer comment théologiens et philosophes chrétiens s'en sont dépatouillés tout au long des siècles. Saint Augustin définissait le mal comme la perversion de la volonté quand elle s'éloigne de Dieu. Et sa conclusion est simple et finalement assez pragmatique. « Je sais une chose, dit-il, partout ailleurs qu'en toi, tout est misère. » L'Ecclésiaste dit à peu près la même chose quand il dit « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Il a raison, saint Augustin, mais ça ne répond toujours pas à la question du mal métaphysique. Ça ne répond pas à la question de savoir comment une créature parfaitement créée a pu voir sa nature être corrompue. Et il s'en rend bien compte, alors voilà ce qu'il tente. Il va dire que les choses corruptibles sont bonnes, parce que si elles ne l'étaient pas, elles ne pourraient pas se corrompre. C'est bien vu, hein ? C'est habile. Pour l'homme, il y a une nature corrompue parce qu'il y a un corrupteur. Et donc, notre regard se tourne évidemment vers le tentateur, sauf que là, la question se pose à nouveau. Comment Satan, lui, a-t-il pu se détourner de Dieu alors qu'il n'a été tenté lui-même par personne ? Et c'est comme ça que nos soupçons finissent par se tourner vers Dieu lui-même. Parce que la coexistence de ce mal abject, intrinsèquement mauvais, qui nous épouvante, avec un Dieu que nous qualifions tout à la fois d'infiniment bon et de pleinement souverain et tout-puissant sur sa création, eh bien, ça ne passe pas. C'est une équation impossible. Alors, certains tentent de la résoudre en niant l'un de ses principes, en disant, par exemple, « Dieu pourrait éradiquer le mal », mais il ne le fait pas, donc il n'est pas foncièrement bon. Ou alors en disant « Dieu voudrait éradiquer le mal, mais en fait il ne peut pas. » Et donc il n'est ni souverain, ni tout-puissant. Alors beaucoup préfèrent conclure finalement que Dieu n'existe pas. Et face à la réalité du mal, concédons-leur ceci, c'est presque une marque de compassion vis-à-vis de Dieu. Plutôt croire qu'il n'existe pas, que de croire qu'il n'est pas bon ou qu'il ne peut rien faire. Et puis, il y a une troisième voie qui est souvent empruntée par des chrétiens de bonne volonté, mais qui, en fait, ne vaut pas mieux que les deux premières. Et c'est de nier le troisième principe. Au fond, disent-ils, le mal n'est pas si mauvais. Après tout, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas ? Et est-ce qu'on ne dit pas souvent aussi que Dieu peut transformer un mal en bien ? Et ces deux expressions sont vraies, elles sortent de la Bible. La Bible le dit, et l'expérience le montre aussi. Mais la conclusion, elle, est erronée. Même si Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, même s'il peut transformer un mal en bien, il n'en demeure pas moins que le mal est vraiment mauvais. La Bible nous montre de bien des manières que Dieu a le mal en horreur. Elle nous le dit, par exemple, en Romains 1, verset 18, « quand Paul explique que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Cette colère de Dieu nous montre à quel point Dieu a horreur du mal. Elle nous le dit encore à travers tous ces récits de jugements qui se sont abattus sur des peuples ou des personnes dans la Bible du fait de leur impiété, du fait du mal qu'ils ont commis. Et donc, il nous faut absolument tenir fermement ces trois affirmations sans en adoucir aucune. Oui, Dieu est bon. Il est amour dans son essence. Oui, Dieu est souverain et il est tout-puissant. Et cependant, oui, le mal existe. Il existe vraiment et c'est une chose absolument abominable. Comment alors disculper Dieu ? Eh bien, de tout temps, des chrétiens s'y sont essayés. Ils ont essayé de prendre sa défense pour qu'on ne l'accuse pas d'être à l'origine du mal. Ils ont écrit de grands traités savants qu'on appelle des théodicées. Saint Augustin, encore lui, va par exemple dire qu'au commencement existait Dieu et l'abîme. L'abîme étant ce qui est séparé de Dieu, ce qui n'est pas lui, donc le mal. Et comme Dieu n'a pas créé l'abîme, eh ben, il n'est pas responsable du mal. Sauf que la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas qu'au commencement, il y avait Dieu d'un côté et le mal de l'autre. Ça s'appelle le dualisme et c'est étranger à la pensée biblique. Elle dit qu'au commencement était le Verbe. Et Ésaïe 45, versets 6 et 7, nous dit quelque chose où franchement, il faut s'accrocher. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète et qui dit « En dehors de moi, il n'y a rien. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. » On peut même traduire ça par « je crée le mal ». C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Ça se coud, hein ? Alors évidemment, il ne faut pas entendre ici que Dieu envoie le mal ou souhaite le mal ou désire le mal. Le prophète Habacuc nous rappelle que Dieu ne peut pas voir le mal. Il n'a rien à voir avec lui. L'apôtre Jacques dit aussi que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et qu'il ne tente lui-même personne. Ce qu'il faut entendre en revanche, c'est qu'au commencement était Dieu, et que Dieu est à l'origine de toute la création, il est à l'origine de toute chose. Donc notre problème reste entier. Ensuite, vous avez Leibniz. C'était un philosophe chrétien de la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui, lui, affirmait que dans une création parfaite, ben, il fallait nécessairement une imperfection dans la créature parce que Dieu ne pouvait pas créer un autre Dieu. Ça aussi, c'est habile. Et donc, Leibniz conclut que Dieu avait devant lui une infinité de mondes qu'il aurait pu créer. Voilà, il aurait pu créer le monde de plein de manières différentes. Et de tous ces mondes possibles, il a choisi le meilleur. Et c'est en ce sens-là que la création est parfaite. C'est parce que ce monde-là est le meilleur des mondes possibles, dit Leibniz. Sauf que est arrivée la tragédie du 1er novembre 1755. Le 1er novembre 1755, à 9h40 du matin, un tremblement de terre frappe la ville de Lisbonne au Portugal. Entre 50 et 70 000 personnes périssent sur un total de 275 000 habitants. Après la secousse, un tsunami et plusieurs incendies vont parachever le travail et détruire la ville dans sa quasi-totalité. Si on ajoute les victimes indirectes, le bilan de cette catastrophe dépasserait les 100 000 morts, plus d'un habitant sur trois. Et cet événement-là va faire éclater de colère un personnage bien connu de la littérature française qui s'appelle Voltaire. Voltaire va se scandaliser contre Leibniz. Vraiment Leibniz ? Ce monde-là, c'est le meilleur des mondes possibles, t'en es bien sûr ? Et il est à ce point révolté qu'il va en faire un ouvrage bien connu lui aussi qui s'appelle Candide. Si vous n'avez jamais lu Candide, c'est le moment de le faire. Voltaire l'a écrit littéralement pour se payer la tête de Leibniz. Dans Candide, les personnages passent par une série de malheurs qui sont tous plus épouvantables les uns que les autres. Mais il y a là un philosophe, Pangloss, qui soutient mordicus que ce monde est le meilleur des mondes possibles. Alors Candide finit par le mettre au défi. « Eh bien, mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups, que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde ?»« Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin, je suis philosophe. Il ne me convient pas de me dédire. » Vers la fin de l'ouvrage, Voltaire fait même dire ceci au narrateur. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert. mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Depuis le tremblement de terre de Lisbonne, le monde n'a hélas pas manqué d'occasion de se ranger du côté de Voltaire. Et finalement, on a Karl Barth qui lui explique que l'abîme est le fruit de la non-volonté de Dieu et que la non-volonté de Dieu est créatrice au même titre que sa volonté. L'abîme n'existe que parce que Dieu l'a rejeté. Le mal, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et ce mal que Dieu avait réprouvé, l'être humain l'a réinvité dans le monde en choisissant d'écouter la parole du diable, en désobéissant à Dieu, en approuvant ce que Dieu réprouve. Alors on a fait le tour de la pensée humaine sur cette question de l'origine du mal, et la conclusion de tout cela est aussi déroutante que passionnante à mon avis. Cette question de l'origine du mal, c'est un sujet passionnant à traiter. Ce que je vous ai exposé là, je ne l'ai pas travaillé en deux jours cette semaine. C'est le fruit d'un travail de plusieurs mois que j'ai fait sur ce sujet parce que c'est le sujet que j'avais choisi pour mon travail de fin d'études à la fac de théologie. Alors j'ai lu une pelletée de bouquins, je me suis creusé la tête, je voulais comprendre et résoudre cette question simplement parce que le mal a fait de grands ravages dans ma propre famille, donc c'est une question qui m'habitait. Et le meilleur de tout, c'est ce que j'ai découvert au bout de toutes ces circonvolutions de pensée. Ce que j'ai découvert au bout de tout ce chemin, c'est que toutes ces tentatives d'expliquer l'origine du mal sont absolument vaines. C'est vain. Alors on peut se dire, bon, merci, tout ça pour ça. Et oui, tout ça pour ça, et en même temps, je ne regrette rien, parce que pour en arriver à cette conclusion, il fallait que je parcours, moi, ce chemin. Il n'y a pas d'explication au mal métaphysique. Quand on essaye de regarder au-delà de la chute en Éden, on s'approche de choses qui nous sont tout simplement cachées. Or, les choses cachées appartiennent au Seigneur, nous dit le livre du Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et en fait, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est évidemment vrai pour toute la révélation, mais c'est peut-être deux fois plus vrai pour le problème du mal. Parce que l'existence du mal dans la Bible n'est pas une question métaphysique, c'est une question infiniment pratique. La Bible ne nous dit pas in fine d'où vient le mal, elle ne l'explique pas. Et nous verrons d'ailleurs pourquoi elle ne le fait pas, il y a une raison théologique à cela et c'est absolument brillant. Mais en attendant, il nous faut constater les limites de la raison. Ça c'est de Kant qui constate ça, qui dit on ne peut pas aller au-delà. Et puis Paul Ricoeur dit, puisque l'origine du mal métaphysique est incompréhensible, alors le problème du mal retombe dans la sphère pratique. Si la Bible ne nous dit pas d'où vient le mal, elle nous dit en revanche quoi faire face au mal. Job a perdu tout ce qu'il avait. Ses enfants sont morts, ses richesses ont été anéanties, sa santé lui a été prise. Tout ce qui lui reste, ce sont trois amis qui passent leur temps à l'accuser et une femme qui l'invite à renier le Seigneur. Alors, on peut s'y attendre, il se met à demander des comptes à Dieu. Et Dieu, à la fin du livre de Job, dira de lui qu'il a bien parlé. Il a bien parlé. Mais il va aussi dire à Job, « Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre ?» Le prophète Habacuc, dans un cri similaire, va dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi est-ce que tu regardes l'oppression? Et Dieu va lui répondre, le juste vivra par la foi. Et puis on peut penser aussi à Paul en 2 Corinthiens 12, qui nous dit, il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et que lui répond Dieu, vous le savez, sans doute, peut-être ou pas, ma grâce te suffit. Face à l'interrogation provoquée par le mal, Dieu nous dit « Garde la foi, fais-moi confiance. » Et il nous donne de la ressource pour ça. Premièrement, à une question qui regarde en arrière vers l'origine du mal, vers d'où ça vient, Dieu répond lui par un regard en avant vers l'avenir de ce même mal. Romains 8, versets 31 à 39 dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la deuxième ressource que la Bible nous donne, c'est la position théologique du mal dans la révélation. Et ça, je tiens ça d'Henri Blocher et je trouve ça spectaculaire. Cette position, la voici, le mal est un parfait intrus dans la création. Le mal ne s'explique d'aucune manière. Il n'y a aucun moyen de l'inclure de manière harmonieuse dans notre théologie. Le problème reste entier et il est impossible à résoudre. Et loin d'être un aveu de faiblesse, c'est la meilleure des nouvelles. Parce que résoudre le problème du mal, c'est accepter d'une façon ou d'une autre qu'il ait une place légitime parmi nous. C'est justifier son existence et le rendre donc moins odieux qu'il ne l'est en réalité devant Dieu. Toutes les religions résolvent le problème du mal. Si la Bible était d'inspiration humaine, elle le ferait aussi, parce que l'imagination humaine ne supporte pas de rester avec un mystère opaque comme celui-ci. Mais la Bible ne le fait pas, parce que le mal est un scandale absolu aux yeux de Dieu. Le mal est ce que Dieu ne veut pas, et la présence de ce que Dieu ne veut pas ne peut se justifier d'aucune manière. Le mal est un intrus, et il doit rester un intrus. Nous n'avons en fait qu'une seule garantie que ce mal sera un jour éradiqué. Et cette garantie, elle nous est donnée précisément par les trois vérités bibliques que nous devons tenir fermement unies sans amoindrir aucune d'entre elles. Oui, le mal existe vraiment. Il existe vraiment. Mais Dieu est bon et il a ce mal en horreur. Et Dieu est souverain et tout-puissant. Donc, le mal sera éradiqué. Là-bas, au bord du lac d'Annecy, dans l'ambiance tranquille et sereine d'un matin de semaine, un homme a poignardé des enfants au nom du Christ et en embrassant une croix qu'il portait autour du cou. Nous pouvons épiloguer des heures sur l'origine de cette abomination ou nous pouvons mettre la parole de Dieu en pratique. Cette parole qui nous dit « Le péché est tapi à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Cette parole qui nous dit « Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. » Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Cette parole qui nous dit « Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Lorsque le mal vient frapper à notre porte, nous avons deux choses à faire. Garder confiance en Dieu dans ce mystère opaque qu'est l'expérience du mal et combattre. Combattre le mal de toutes nos forces parce qu'il est l'intrus, il est ce qui ne doit pas être. Je vais prier. Seigneur, la réalité du mal et les formes qu'il peut prendre dans ce monde nous bouleversent, Seigneur. Nous te connaissons, nous te faisons confiance. Et malgré tout, quand nous sommes confrontés à ce genre d'événements, quand ça nous touche de près, nous sommes bouleversés par la réalité de ce mal, par son étendue. Seigneur, tu as envoyé ton Fils sur terre, qui lui aussi a été bouleversé par ce mal qu'il a pu voir, qui lui aussi a pleuré sur Jérusalem, qui lui aussi a pleuré sur le péché des hommes, qui lui aussi a été bouleversé de voir des gens perdus, sans berger. Seigneur, tout ce mal, nous savons que ton Fils l'a pris sur lui à la croix. Nous savons qu'il est mort pour nos péchés. Nous le croyons. Nous croyons que sans lui, nous sommes perdus. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est un cadeau qui vient de toi. Non seulement que nous puissions accéder au salut en plaçant notre foi en ton Fils qui a payé le prix pour nous, mais qu'en plus tu fasses ton œuvre en nous, en nous faisant aller de progrès en progrès. Seigneur, nous savons que pour ça nous devons rester attachés au cep, nous devons rester attachés à Jésus-Christ, fermement. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons marcher dans la sainteté. Nous ne voulons pas laisser de prise à l'ennemi dans nos vies. Quand nous voyons où est-ce que ça peut mener ceux qui s'abandonnent finalement, s'abandonnent au prince de ce monde, jusqu'où ils peuvent aller, Seigneur, c'est effroyable. Nous ne voulons pas de ça pour nos vies. Nous ne voulons pas de ça pour le monde, Seigneur. Alors nous voulons aussi vraiment entrer dans cet appel que tu nous fais d'être lumière du monde, d'être celle de la terre, d'être tes témoins jusqu'au bout du monde, parce que nous voyons à quel point il a besoin de toi. Nous voulons regarder ces ténèbres en face pour ce qu'elles sont. Nous ne voulons pas les minimiser. Nous ne voulons pas faire comme si elles n'existaient pas. Nous ne voulons pas vivre dans notre cocon entre nous, où nous sommes finalement si bien. Seigneur, tu nous appelles à plus que ça, et nous voulons entrer dans ton appel. Amen.